Aujourd'hui, nous allons terminer le message sur le livre de Nombre. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. D'accord? Donc, la semaine dernière, on a commencé et on a vu, globalement, c'était les attitudes qui se sont manifestées chez le peuple d'Israël pendant leur voyage à travers le désert. Les attitudes qui ont déplu au Seigneur. Donc, si vous vous souvenez, le message, comment déplaire à Dieu. Hein, ça, c'était le message. Donc, on a vu que ce qui déplaît à Dieu, c'est l'insatisfaction, les critiques injustes du responsable. Je n'ai pas dit des critiques justes. S'il y a des critiques justes, ils sont justes. Hein? Mais là, c'était contre Moïse et c'était injuste. L'incrédulité face aux promesses de Dieu, l'insoumission à la parole de Dieu, la désobéissance à la parole de Dieu, l'impatience, l'ingratitude et, on a vu à la fin, le regard en arrière. Combien c'était mieux d'être esclave en Égypte que de marcher dans le désert avec Dieu. Donc, en dépit de tout cela, la grâce de Dieu se manifestait et Dieu bénissait son peuple. Incroyable, n'est-ce pas? La grâce est une chose non méritée. Le peuple d'Israël ne méritait pas la grâce de Dieu. Toutes les bénédictions, toute la nourriture, tout ce que Dieu pourvoyait. Pourtant, il a fait parce qu'il les aimait. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a un certain moment que Dieu n'a pas pu bénir le peuple quand le peuple est entré dans l'idolâtrie et l'immoralité. Ça a gâché la relation. Et puis, à la fin, nous allons voir aussi l'idée du Nazaréat. Okay? Donc, ça, c'est les choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va regarder dans Nombre, chapitre 22. Enfin, c'est, on ne va pas tous voir, mais c'est les chapitres 22, 23, 24, 25 et 31 qui sont dans la première partie du message. Et je voudrais lire dans chapitre 24 pour démarrer. Donc, pour vous dire, je pense que vous connaissez la grande partie parmi nous, connaît l'histoire de Balaam. Donc, c'est celui qui était un prophète. Donc, je vais revenir sur cette idée-là. Et il est allé voir ce roi Balak. Et il désobéissait à Dieu. Et puis, son animal commençait à lui parler. OK? C'est celui-là. C'est cette histoire-là. OK? Donc, pour insister, Balaam était un véritable prophète de l'Éternel. Il n'était pas un faux prophète. Il était un prophète, selon l'ancien ordre, l'ordre avant Moïse, d'accord? Moïse, donc avec Moïse, ça commence la loi de Moïse, etc., etc. Jéthro, aussi, le beau-père de Moïse, était un sacrificateur de Dieu chez les Madianites, excusez-moi. Et à savoir que les Madianites étaient les descendants d'Abraham par sa seconde femme, Keturah, qui est devenue sa femme après la mort de Sarah. Et ce sont des Madianites qui ont amené Joseph en Égypte pour le vendre en tant qu'esclave. Et puis, il y avait aussi un roi, le roi de Guérar, qui s'appelait Abimelech, qui, donc avant le temps de Moïse, c'était à l'époque d'Abraham, qui régnait sur un peuple juste. Et on lit ça dans Genèse chapitre 20. Donc, on connaît aussi à l'époque d'Abraham, il y avait Melchizedek qui était aussi prophète, mais aussi sacrificateur de l'Éternel. Donc, il y a toute une pensée là que normalement on n'aborde pas parce que c'est un peu sur le côté, n'est-ce pas? Mais avant les Juifs, Dieu avait quand même eu des relations avec l'humanité. Et puis ça va s'éteindre quand Dieu va commencer avec Abraham et faire grandir le peuple d'Israël. Et puis, avec, à partir de Moïse, Dieu va inscrire, il va inspirer, faire inscrire la parole de Dieu. Donc, nous allons lire dans Nombre, chapitre 24, à partir de verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois maintenant, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Ils se rendent maîtres d'Édom et ils se rendent maîtres de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Bon, on va arrêter là, mais il y a d'autres prophéties qu'il va donner. Okay? Alors, je voudrais relever que c'est seulement ici qu'on a une prophétie concernant un astre. L'astre qui sort d'Israël, de Jacob, que nous avons tous discuté à propos de Noël. N'est-ce pas? Cette étoile-là, c'est que ici, dans l'Ancien Testament, qu'il y a mention d'une étoile. OK? Donc, à comprendre que c'était un prophète de Dieu. Et ici, il a fait des prophéties concernant le Christ. Il a fait la prophétie concernant son arrivée et son royaume. OK? Donc, c'est très intéressant, ce prophète. Eh bien, le roi Balak envoie des hommes envers Balaam pour demander qu'il vienne maudire Israël. Et bien sûr, Dieu a dit non, Balaam, tu ne vas pas maudire mon peuple. Donc on peut voir ça dans chapitre 22, toujours. Chapitre 22, et c'est le verset 9 à 13. Dieu, donc il y a beaucoup que je ne lis pas, d'accord? C'est vraiment les textes sélectionnés. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Donc, ça doit être la fin de l'histoire. N'est-ce pas? Quand Dieu dit non, oh, mais quand même, Dieu, il y a un bon côté de cette chose-là. Eh bien, il fallait que Balaam accepte que Dieu a dit non. Balaam se lève le matin et dit au chef de Balak, il dit, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Donc, au début, au moins, ça semble bien. Il a compris que Dieu ne veut pas. Mais on a tout le reste de l'histoire, en fait, où Balaam, il cogite sur cette idée de toute cette richesse et renommée que Balak le propose. Et donc, avec sa convoitise qui est dans son cœur, eh bien, il va partir. Déjà dans son cœur, il est parti. OK? Donc, on voit dans chapitre 22 encore, au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit. Donc, c'est le retour des hommes de Balak. Et pendant qu'ils sont là, Dieu va dire, bon, écoute, si tu veux tellement partir, parte. Hein? Donc, c'est là qu'on est. Dieu vint à Balaam pendant la nuit, il dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Alors, je vais lire jusqu'au verset 22. La colère. Dieu n'est pas schizophrène. Hein? La colère, c'est parce qu'il a dit non. Mais quand Dieu nous dit non et nous insistons, qu'est-ce que Dieu fait? Ben, des fois, il nous laisse. Il nous laisse faire ce que Dieu a dit non. Et c'est une permission, mais en jugement. Et donc, Dieu, il dit oui, part, vas-y, mais en colère. Donc, la colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Donc, on va sauter au chapitre, au verset 32, plus loin. Et donc, il dit, l'ange de l'Éternel dit donc à Balaam, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. » Cet chemin-là, c'était le chemin de la convoitise dans son cœur. Donc, il est parti et on va voir la fin de l'histoire plus tard, mais pour l'instant, on s'arrête là. En dépit de la volonté de Dieu, que Dieu a voulu bénir Israël, Balaam, avec toute l'histoire qu'on ne voit pas tous, il a appris au roi Balak comment entraîner Israël dans l'idolâtrie et dans l'immoralité afin que Dieu ne pouvait plus bénir Israël. Et donc, dans Apocalypse, chapitre 2, on a mention de ça. Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Mais, donc il écrit aux chrétiens, bien sûr. « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » OK? Donc, on ne voit pas ça. On voit chapitre 22, 23, 24. Et à la fin du chapitre 24, on a l'impression que Balaam a dit, « Écoute, hein, c'est fini. » Et puis, il repart chez lui. Pourtant, quand on lit dans l'Apocalypse, il dit, non, ce n'était pas fini. Il a arrêté de raconter l'histoire. Mais on a chapitre 25, quand Moab arrive justement à entraîner les garçons à commettre l'adultère, immoralité déjà, et puis l'adultère spirituel en faisant l'idolâtrie avec les femmes de Moab. Et puis, quand on est dans Nombre chapitre 31, Nombre chapitre 31, verset 16, on trouve où ça s'est marqué. 31, 16, où il dit, voici ce sont elles qui sont, je recommence, voici ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc ça c'est chapitre 25. Et puis au verset 8, hein, parce que Balaam était parti sur cette chemin de perdition, n'est-ce pas? Et au verset 8, chapitre 31, verset 8, en parlant du peuple d'Israël, ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Rékem, Tsur, Ur et Reba, cinq rois de Madian, ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Vous voyez, il avait pris le chemin et il était à la fin tué. Okay? Donc, pour nous, qu'est-ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Eh bien, idolâtrie et immoralité. C'est Paul, c'est Jean, tous les deux, qui dit, il faut fuir. Nous sommes, comme on a chanté tout à l'heure, nous sommes faibles. Il ne faut pas dire, moi je suis fort, je suis bon chrétien, je ne risque jamais à trébucher. Ça, c'est n'importe quoi. Je répète que Balaam était un prophète de l'Éternel. Un vrai prophète. Il était en communion quelque part avec Dieu. Dieu révélait des choses à cet homme-là. Mais à un certain moment, le tentateur lui a mis cette piège et il a conçu ce désir d'avoir la richesse et tout ça. Eh bien, il a appris aux ennemis de Dieu comment faire pour faire tomber le peuple de Dieu. Okay? Donc, pour nous, nous voulons faire attention. Fuir l'immoralité, fuir l'idolâtrie. C'est comme ça que nous devons appliquer ce texte. D'accord? Maintenant, je voudrais parler de Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Donc, c'est un chapitre qui est un peu... Voilà, c'est là. Ça n'a pas trop à voir avec les autres choses autour dans le livre. Mais c'est le chapitre qui parle du vœu du Nazirréat. C'est déjà difficile à dire. Et puis plus tard dans l'évangile, Jésus sera appelé Nazaréen. OK? Donc, on ne sait pas exactement d'où vient cette expression dans le Nouveau Testament, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est juste, de toute façon. Donc, au chapitre 6, verset 2, lorsque un homme parle aux enfants d'Israël, et tu le diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres Israélites, se mettre à part, donc se sépare pour être mis à part, pour être différente, en faisant vœu de Nazaréat pour se consacrer à l'Éternel. Okay, on s'arrête là, parce que par la suite, il y a tout un tas de règlements pour cette vœu du Nazaréat. Et à savoir que Paul, quand il est venu à Jérusalem, juste avant qu'il ait été pris dans le temple et tout ça, et puis pour ça a fait son cheminement jusqu'à César, eh bien, il a fait le vœu de Nazaréat. Il allait faire un sacrifice après avoir cru en Jésus-Christ. Paul a péché. Jésus était la fin des sacrifices, des expiations et tout ça. Et Paul, voulant être tout à tous, eh bien, il allait faire un acte juif qui allait contredire sa foi en Jésus-Christ. Okay? Eh bien, ce vœu de Nazaréat, c'est l'idée d'être consacré pendant un temps. Ce n'est pas un vœu monastique. Okay? Ce n'est pas, voilà, pour toute ma vie, je vais être séparé de tout le monde et je vais consacrer toute ma vie à Dieu. Okay? Parce qu'il y a plein de règlements ici. Hein? On a Samson, qui était séparé dès le ventre de sa mère comme Nazaréat. Okay? Et vous savez comment la vie de Samson n'était pas trop bonne. Hein? Donc, c'était imposé sur lui. Et il a vécu comme il a voulu. Dieu s'est servi de lui, oui, c'était dans l'Ancien Testament. Dieu a voulu faire les choses avec Samson, d'accord. Mais il n'a pas respecté les vœux de ses parents. Bien sûr, ce n'était pas ses propres vœux. Hein? On ne peut pas imposer les choses sur les gens. OK? C'est curieux comment Dieu permet des choses des fois. Mais nous devons savoir que Samson n'a pas fait le vœu du Nazaréat lui-même. C'était ses parents. Et c'était évident dans la façon qu'il a vécu. OK? Donc, il y a aussi Samuel qui était consacré à l'Éternel par ses parents. Mais ce n'était pas dans le contexte de ce vœu de Nazaréat. OK? Samuel, c'était différent. Et le point, donc l'idée du naziréat, c'est d'être séparé des autres juifs, donc des autres chrétiens si vous voulez, et être consacré à l'Éternel pendant ce temps-là. Okay? Nous, les chrétiens, nous n'avons pas cette idée-là, parce que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas juifs. Okay? La seule personne qui vraiment était à 100% séparé du péché et 100% consacré à Dieu, c'était Jésus. Jésus, donc, nous pouvons lire dans Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Donc Jésus était en communion totale, permanente, avec son Père. Et puis nous lisons dans Jean chapitre 6 et verset 38. Jean chapitre 6 et verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il me semble que j'avais un autre verset que j'ai dû oublier d'écrire, où Jésus a dit, c'était dans Jean aussi, mais je pense que c'est dans le même chapitre, mais bon, il dit, tout ce que le Père fait, je le fais également. Okay, donc, il était en communion absolue, permanente, avec son Père jusqu'à ce qu'il a porté nos péchés sur la croix. Donc, Jésus était à 100% consacré à son Père. Donc, voilà pourquoi il sera appelé Nazaréen. Hein? Il était de la ville de Nazareth, mais il était d'une vie de Nazaréat, d'accord, à 100%. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de vœu de Nazaréat pour les chrétiens, donc il ne faut pas essayer de le faire parce que ça c'est absolument sous la loi et nous ne sommes pas sous la loi. Pourtant, quand même, nous, les chrétiens et les chrétiennes, sont tous des peuples, un peuple séparé. Donc on va voir dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17. 16. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Bien, évidemment, rien, même pour les Israélites, ils ne devaient pas avoir un rapport. Mais bon, ici, on parle aux chrétiens. Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Nous, les croyants en Jésus-Christ, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc ça c'est nous, le peuple de Dieu. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous, les chrétiens, nous devons être séparés du péché et de la mondanité. Et puis, aussi dans cette idée de, parce que là c'est la première idée, une personne qui se sépare des autres, donc nous on se sépare de tout ce qui se passe autour de nous. Mais en plus, Dieu veut qu'on se consacre à lui. On est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour un an ou pour trois semaines ou pour je ne sais pas quoi. C'est depuis le moment qu'on a cru en Jésus-Christ, on est devenu le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour cela dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12 et versets 1 et 2, nous lisons à la conclusion de toute la théologie du salut en Jésus-Christ par la foi, etc. Il dit au Romains chapitre 12, versets 1 et 2, je vous exhorte donc, à cause de toutes ces choses, toutes ces bénédictions, toutes ces vérités, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est logique que si nous avons cru en Jésus-Christ et Dieu nous a pardonné pour tous nos péchés, eh bien on se consacre à lui. On se donne, pas un sacrifice mortel, mais un sacrifice vivant. Dieu veut qu'on vit notre vie à ça, pour son plaisir. Et donc, il dit au négatif, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça, c'est parce que nous sommes constamment le temple du Saint-Esprit que Dieu aimerait bien que nous soyons constamment consacrés à lui. Donc, moi, je voudrais simplement vous encourager ici, au début de l'année, prendre du temps devant Dieu pour vous assurer de votre séparation du péché et votre consécration à Dieu. Je ne vous demande pas me parler de ça, mais je vous dis, vous, dans l'intimité de vos prières, dans votre culte personnel, de voir ça avec Dieu. Question séparation du péché et consécration à Dieu. Quelque part, ça, c'est positif et négatif. D'accord? Voilà.